enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Allons regarder ensemble dans la parole de Dieu. On va entrer ensemble dans la deuxième partie de ce message, de cette série de messages. N'aie pas peur. Comment vaincre les craintes, angoisses et phobies de la vie moderne. Nous allons regarder ensemble dans l'Évangile de Luc. Prenez vos Bibles dans vos mains et levez-vous avec moi. On va se lever ensemble. Et j'espère que vous avez votre Bible. Prenez-la dans vos mains, on va la lire ensemble. Vous connaissez le règlement très sévère à l'Église Nouvelle Vie. Si vous n'avez pas votre Bible, je ne parle pas aux gens qui sont nouveaux, mais si vous êtes avec nous pour la première fois, soyez à l'aise, les versets vont être à l'écran. Mais si vous êtes de l'Église et vous n'avez pas votre Bible, vous connaissez le règlement. Il faut que vous ayez courir maintenant 10 tours du bloc en punition pour avoir oublié votre Bible. Amenez votre Bible, il faut l'avoir dans vos mains et voir la parole de Dieu. Les versets vont apparaître aussi à l'écran. Et nous allons regarder ensemble à Luc chapitre 12. Dans ce message de Jésus sur pour vaincre ensemble, nous enseignant comment vaincre, conquérir les peurs, les angoisses, les inquiétudes. Luc, chapitre 12 et le verset 25. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens ou ceux qui ne connaissent pas Dieu dans ce monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, n'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Seigneur, je prie maintenant que ton Saint-Esprit vienne donner la vie. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que la lettre tue en elle-même et que l'Esprit vient lui donner la vie. Et Seigneur, je sais qu'il y a des centaines et milliers de personnes qui sont venues, qui sont avec nous ce matin ici à Nouvelle Vie, et des dizaines de milliers qui vont écouter ce message par l'Internet et par la radio, qui ont besoin, Seigneur, d'une libération, besoin d'une parole de révélation, besoin d'apprendre comment vaincre les peurs et les angoisses. Alors je prends autorité au nom de Jésus, contre tout mensonge, esprit mensonger, domination de fausseté, de mensonge, qui sont venus bombarder les pensées et le cœur d'hommes et de femmes qui vont entendre ma voix. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tu brises toutes les chaînes. Je déclare, Seigneur, au nom de Jésus, ce lieu, ce matin ici à Nouvelle Vie, un lieu de libération, un lieu de révélation, un lieu de victoire pour le royaume de Dieu, un lieu où des centaines vont aller chercher une victoire en toi, et je déclare ce lieu de défaite et de cessation pour tout ce qui est ténèbres et tout ce qui est captivité. Nous célébrons et applaudissons à l'avance ce matin la victoire que tu vas nous donner dans le nom de Jésus, et tout le monde dit amen et applaudissez ce que Dieu va faire. Vous pouvez vous asseoir en sa présence. Merci aux musiciens, à tous ceux qui nous servent. N'aie pas peur, comment vaincre les craintes, angoisses et phobies modernes? Je crois qu'il y a une grande, il y a un timing de Dieu dans cette série de messages du virus H1N1 à la récession, aux pertes d'emploi et aux choses qui sont là dans chacune de nos vies, aux craintes, aux angoisses qui peuvent être là dans chacune de nos vies. Il y a un grand nombre d'entre nous qui avons besoin de revenir et d'être rafraîchis ou d'entendre pour la première fois, de nous emparer pour la première fois de cette révélation de Dieu pour le chemin pour vaincre les craintes, les angoisses et les phobies modernes. Avant d'aller plus loin, je veux débuter ce message avec cette déclaration que je prie, qu'elle puisse pénétrer vos cœurs et vos esprits, que Dieu dit « J'ai un plan pour vous ». Lorsque le Seigneur dit « Ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas, n'ayez pas peur » comme on vient de le lire, ce n'est pas seulement qu'il lance un appel, un commandement qui repose sur rien. Il nous enseigne enseigne comment aller chercher cette paix, comment vaincre les peurs et les craintes. Et l'apôtre, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1, cette déclaration que je prie, qu'elle soit écrite sur vos cœurs par l'Esprit ce matin, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. 2 Timothée 1, 6 et 7. La flamme du don de Dieu que tu as reçu, car ce n'est pas un esprit de peur, de phobie, phobias, dans le grec, qui veut dire littéralement courir effrayé. Ce n'est pas un esprit où tu te sauves, où tu as peur dans ton esprit, dans tes émotions, dans tes pensées, de quelque chose qui te domine, que Dieu nous a donné. Au contraire, j'aimerais vous dire ce matin que le mieux que ce monde peut offrir, c'est d'essayer d'engourdir, essayer de limiter, essayer de t'apprendre à vivre avec, essayer de simplement réduire ou limiter les peurs, les craintes, les angoisses et essayer de t'aider à composer avec. Il y a dans la parole de Dieu un enseignement, il y a dans la personne de Dieu et dans les promesses de Dieu et dans la personne du Saint-Esprit, que chacun m'entende, il y a une déclaration que ce n'est pas cet esprit, ce n'est pas cette réalité. Ce n'est pas les limites de ton héritage. Si tu es un enfant de Dieu, il y a un plan dans les Écritures, non seulement pour que tu contrôles tes craintes et tes paniques, mais pour que tu puisses les vaincre et que tu en sois libéré et que tu deviennes un agent de libération pour d'autres. Quelqu'un qui l'a vécu ce matin déclare un amen dans la maison du Seigneur. Et cette Église est remplie d'hommes et de femmes qui l'ont vécu. J'étais béni de recevoir et je vous encourage à continuer de le faire. Je vous demande cette faveur. Faites équipe avec moi dans les prochaines semaines et moi, vous le faites à l'année longue. Mais si vous avez un témoignage qui est particulièrement pertinent avec la série de messages, envoyez-moi un témoignage et si vous nous donnez la permission de l'utiliser, vous nous l'écrivez. Chaque témoignage qui est lu, on a la permission des gens de les donner. C'est souvent une adaptation d'un plus long témoignage. Il y a deux lettres que j'aimerais lire ce matin parce que la parole de Dieu dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Il y a des gens qui sont ici qui ont besoin que leur foi soit fortifié ce matin, que c'est possible pour toi de changer. Il y a aussi la parole de Dieu qui nous dit « Ils ont vaincu par le sang de l'agneau, mais la parole de leur témoignage, que le sang du Seigneur, l'onction de Dieu, l'action de Dieu, ce n'est pas seulement une théorie, ça se concrétise, matérialise et s'incarne dans des témoignages vivants. » Alors ce matin, écoutez ces témoignages, les gens sont ici ce matin qui ont donné ces témoignages et que vos cœurs puissent être fortifiés. Une lettre d'une dame qui dit « Votre série arrive au moment de Dieu pour moi et surtout pour une amie qui se tourne vers Dieu. » Je lui témoigne depuis un an. C'est une compagne de travail et elle souffre terriblement d'angoisse. Elle est brillante, elle fait un salaire exceptionnel avec un poste de cadre de haut niveau. Elle a de très grosses responsabilités, mais elle étouffe par des crises d'angoisse qui la paralysent. Elle a commencé à venir à Nouvelle-Vie en janvier. Elle a vraiment donné sa vie au Seigneur à Pâques. Quand vous avez annoncé votre série sur comment vaincre les peurs, elle m'a dit « Est-ce que c'est possible que ce qui t'est arrivé puisse m'arriver à moi aussi? » car je lui ai raconté ce que Dieu a fait pour moi. Parce que, Claude, vous connaissez mon témoignage et je vous permets de le partager avec la grande assemblée. Moi aussi, j'étais un workaholic avec une carrière excitante, mais qui était mon Dieu et qui prenait toute la place pendant 20 ans de ma vie. La dépression et le burn-out qui m'ont frappé m'ont presque tué. J'ai été en arrêt de travail pendant 2 ans. Je n'ai pas sorti de mon lit pendant 18 mois. J'étais enfermé, terrorisé et désespéré. Cela a presque brisé mon mariage, mais mon mari a commencé à venir à l'Église, il a accepté le Seigneur à Nouvelle-Vie et il s'est mis à prier pour moi. En mars 2006, j'ai commencé à aller à l'Église, j'ai repris espoir, j'ai appris à prier, j'ai accepté le Seigneur et j'ai été baptisé avec mon mari. J'ai été suivi en thérapie par pasteur, et elle nomme le pasteur qui est ici, il y a toute une équipe pastorale qui est là. Vous êtes à un coup de téléphone d'avoir quelqu'un qui peut prendre un temps avec vous pour les prochaines semaines, vous rencontrer régulièrement et vous aider à trouver cette libération. Et je me suis jointe à un groupe de Vase Restauré. C'est un groupe de 12 étapes d'entraide pour personnes qui sortent d'une dépression. Cela fait 3 ans et demi et je suis totalement sorti de ma dépression. Elle écrit « Aucune séquelle ». J'ai repris le travail et je réussis bien, mais j'ai aussi appris à mesurer mes priorités. Je dis à mon ami qui a tellement besoin d'aide et à tous ceux qui vont entendre mon histoire, je suis heureuse, je suis en paix et je suis libérée. Oui, c'est possible de vaincre la dépression. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour d'autres aussi. Et j'ai été touché par cette phrase. Elle écrit, « Il n'y a rien de plus puissant que l'Esprit de Dieu. Et je veux déclarer ce matin qu'il n'y a rien. Ce n'est pas un esprit de phobos, de peur et d'angoisse que Dieu t'a donné et que ce n'est pas ça la limite de ton expérience chrétienne, mais un esprit, l'esprit de force et d'amour et de paix de Dieu. Et je veux le déclarer ce matin, et il y en a d'entre vous, c'est comme un choc électrique dans votre âme en ce moment. Est-ce que ça pourrait être vrai? C'est vrai! Il n'y a rien de plus puissant que l'Esprit de Dieu et que ceux qui l'ont vécu disent amen dans ce lieu ce matin. Deuxième lettre extrêmement touchante. Je vous écris parce que votre série m'a rappelé ce que le Seigneur a fait pour moi. Comme vous le savez, j'ai fait 3 tentatives de suicide entre l'âge de 19 et 23 ans. Et la dernière m'avait plongé dans un coma pendant une semaine. J'avais été diagnostiqué dépression sévère, chronique, et je croyais vraiment, je pensais que je serais comme ça toute ma vie. Ma vie, c'était le mal de vivre, mes dépendances à la boisson, à la cocaïne et les médicaments. Le premier matin que je suis venu à Nouvelle Vie avec après mon coma, votre message, c'était le rêve de Dieu et Joseph dans une prison. Je me suis vu dans ma prison et j'ai commencé à demander à Dieu de m'en sortir. Ça s'est fait graduellement, mais je suis allé de changement en changement, de victoire en victoire. Mes parents sont chrétiens, ils ont prié pour moi et m'ont aidé. Et j'ai aussi trouvé des amis, des filles qui sont devenues comme mes sœurs et qui m'ont aidé à aller chercher ma victoire. Ça fait 2 ans que je suis sobre. Elle est ici ce matin, on est tellement fiers d'elle. Ça fait 2 ans que je suis sobre, je ne consomme plus du tout et je suis vraiment heureuse. J'ai 26 ans et mon chum qui m'a vu changer est devenu chrétien lui aussi. On a été baptisés ensemble, on s'est mariés en 2008 et elle écrit « C'est pas croyable comment on est heureux ». Savez-vous que ça fait du bien? Il y en a qui souvent l'entendent « C'est pas croyable comment j'ai du trouble, c'est pas croyable comment ça va mal ». Combien sont heureux d'entendre « C'est pas croyable comment je suis heureux ». Nouveau marié, c'est pas croyable. Et elle écrit… Et ça, c'est extrêmement émouvant. Elle écrit « Je suis enceinte, Pasteur Claude, et j'ai pleuré de joie parce que je suis clean. Sans Dieu, ce bébé-là aurait été porté par une junkie. Mais mon médecin de famille et mon psychiatre m'ont écrit une lettre que je vous ai envoyée qui disait que ce qui m'est arrivé était inexplicable pour eux. Mais je sais que c'est Dieu et l'Église. J'ai commencé à ressentir de la paix pour la première fois quand j'étais à l'Église les dimanches matins dans la présence de Dieu. Après, j'ai commencé à apprendre à prier à tous les matins et le soir, et je sentais la pression baisser et la paix monter en moi. Elle écrit dans ses propres mots, c'est magnifique. Elle écrit « J'ai souffert d'insomnie pendant des années, mais maintenant je dors super bien, comme si j'étais porté par Dieu. » Le mois passé, mon frère, que je vous demande de ne pas nommer, est venu à l'église pour la première fois. Il vit un divorce et il est démoli. Il me niaisait quand j'ai commencé à venir à l'église Nouvelle Vie. Cela faisait seulement 15 minutes que vous parliez et il s'est mis à avoir les grosses larmes sur les joues. Il va s'inscrire au cours des nouveaux et on va y aller avec lui pour l'appuyer. Ma mère m'a dit, mes 2 enfants qui vont à l'église, il faut que j'aille voir ça. Alors je l'amène à la fête des mères. Je voudrais me lever debout le dimanche au début de votre message et crier de votre message « N'aie pas peur » pour crier « C'est vrai ». Écoutez-le, Dieu est réel. Et Pasteur Claude, on va vous envoyer bientôt une photo de notre bébé. Et nous avec notre bébé. J'aimerais vous dire ce matin, comme elle, je me lève debout et je veux crier, c'est vrai, c'est la réalité, la vérité. Dieu est capable de consoler, de guérir. Que ceux qui le croient applaudissent fort, c'est la vérité ce matin. Le message de Jésus contre la peur et les angoisses, dans le texte que nous avons lu, il dit « Ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas, n'ayez pas peur. » Il nous enseigne comment, de semaine en semaine, nous enseigne comment arriver à cette libération et à cette paix et à cette capacité de nous élever au-dessus de ce qui nous tourmentait et nous faisait du mal. Et le contexte dans lequel il enseignait ce message « Comment vaincre la peur » est surprenant. D'actualité et de pertinence pour nous qui sommes ici au Québec en 2009. C'est intéressant qu'il y ait des choses qui prennent place autour de Jésus qui sont les mêmes 2000 ans plus tard. Jésus va enseigner ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, les béatitudes. Ils sont dans l'évangile de Matthieu, ils sont repris dans Luc, il l'a enseigné en Galilée à différents endroits dans les évangiles. On voit que ça a été enseigné plusieurs fois, que c'était une pierre angulaire de son enseignement, d'enseigner à chaque personne qui écoutait son message comment vaincre les peurs. Et dans Luc 11, il y a cette vignette intéressante. On lit à chapitre 11, verset 23, la diapo 7, que quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, en lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Et sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Et Jésus se mit alors à enseigner ses disciples. C'est intéressant le contexte dans lequel Jésus a enseigné parce que c'est le même qu'aujourd'hui. Il y a un contexte où il y a des gens à l'extérieur qui veulent seulement le prendre en défaut. Qui veulent, c'est une des raisons pour laquelle à 95% ou plus, je ne collabore pas ou je ne donne pas d'interview. On refuse presque toutes les invitations que nous avons des médias pour toutes sortes d'interviews. C'est que la majorité des médias, c'est comme il y a 2000 ans, ils veulent te questionner sur toutes sortes d'autres choses pour essayer simplement de te prendre en défaut. Puis il y avait les pharisiens, puis il y avait des gens qui étaient là et qui appelaient, et vous le vivez au bureau, vous le vivez à l'école, vous le vivez avec vos familles. Il y a des gens qui ne connaissent rien à Dieu, rien aux Écritures, rien à l'Église, rien au mouvement évangélique mondial avec 700 millions de personnes sur la terre, n'y connaissent absolument rien, mais ils cherchent juste quelque chose pour essayer de prendre en défaut. Et pendant qu'eux jouent ces jeux-là, il y a une multitude, eux, il y a des milliers qui étaient là, qui se pressaient, comme il y a des milliers ici à l'Église Nouvelle-Vie ce matin. Il y a des milliers qui se pressaient autour du Seigneur parce qu'eux, au-delà des débats stériles et des accusations basées sur rien et de chercher de le prendre en défaut sur toutes sortes de sujets, de le faire parler pour le prendre en défaut, il y avait dans leur cœur une soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'apprendre à vaincre mes peurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider face à la mort, face à la vie, face au passé, face au présent? J'aimerais dire qu'il y a ces milliers qui étaient au pied du Seigneur et que eux, les débats ne les intéressent pas parce qu'il y a quelque chose dans leur cœur. Ils ont soif pour une vraie réponse. C'est une vraie solution que le monde ne peut pas leur donner. Ils sont encore présents aujourd'hui. Il va apparaître à l'écran certaines images d'un sondage, c'est un document qui s'appelle le séminaire thématique du risque. Et c'était avec un thème prévalence de troubles mentaux dans la population québécoise. C'est une étude qui a été faite récente en juin 2008, une étude gouvernementale avec des statistiques assez très récentes qui parle de toutes les différentes difficultés qui affligent les gens de troubles psychologiques, mentaux, dépression, burn-out, épuisement professionnel. Il y a des statistiques hallucinantes là-dedans. Les milliers, la foule qui était au pied du Seigneur et qui avait besoin d'aide, elle existe encore, elle est présente. Elle est ici ce matin à l'Église Nouvelle-Vie. Et ce document, cette étude, ce sondage révèle que près de 1,3 million de personnes souffrent de troubles d'humeur, d'anxiété, de dépression ou d'une combinaison de ces choses. Une personne sur cinq. Sur les 3 000 personnes et plus qui fréquentent Nouvelle-Vie, c'est 500, c'est 600, c'est 700 personnes et familles, statistiquement, qui en souffrent de manière sérieuse. C'est des milliers qui vont écouter l'émission de radio et qui vont écouter le message sur Internet. Et il disait même qu'il y avait une personne sur 4 au Québec dans le prochain 20 ans qui va être touchée par une forme ou une autre d'angoisse sévère, d'insomnie grave reliée au stress, de dépression et de burn-out. Alors, les multitudes, il y a ceux qui veulent accuser sans même connaître, mais au-delà de cela, il y a des multitudes. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui sont ici ce matin. C'est pour ça que vos amis, vos familles, dans le fond de leur cœur, cherchent une réponse, cherchent une solution. Et il y a les multitudes, mais la parole de Dieu l'approche du Seigneur, c'est toujours des multitudes vers l'individu. Vers la personne. Vous n'êtes jamais perdu dans la foule devant Dieu. Vous n'êtes jamais perdu dans la foule au travail. Vous n'êtes jamais perdu dans la foule ici par avoir 3 000 et 4 000 et 5 000 personnes à l'Église Nouvelle-Vie. Mais Dieu a cette capacité de regarder à toi ce matin. Il sait tout de toi. Il sait ce qui te fait peur, il sait ce qui t'angoisse, il sait ce qui combat. Même pendant que j'enseigne ce matin, en ce moment, tu essaies de te concentrer, tu essaies d'écouter, mais il y a des choses qui pèsent et qui t'inquiètent. C'est toujours de la foule vers l'individu. Et c'est fascinant. Il y a 2000 ans, Jésus est là, le Fils de Dieu, puis il va enseigner les réalités, les révélations sur comment un être humain peut être libéré de la peur et de l'angoisse. Et au verset 13, c'est tellement criant d'humanité. Le chapitre 12, verset 13, alors que la richesse de la révélation s'apprête à être dévoilée, à être proclamée, il y a un gars qui est là dans la foule, quelqu'un qui dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Moi, je lis ça, ça me fait sourire. Il y a un gars qui était là, et Jésus s'apprête à lui donner l'enseignement qui peut libérer son âme et celle de sa famille pour toujours, mais lui, il n'est même pas capable d'entendre tellement il a la tête dans ses affaires, tellement qu'il est inquiète. Puis vous pouvez l'imaginer qu'alors que le Fils de Dieu est en train d'enseigner, lui est en train de penser à l'héritage, puis c'est combien, puis c'est lui, puis la foi qui me l'a pris, puis il était supposé me l'a donné, puis il me l'a pas donné. Et alors que le Fils de Dieu veut libérer son âme, lui, il est totalement dans ses inquiétudes. Et je sais qu'il y a quelqu'un. Donnez un coup de coude à quelqu'un ce matin et dites-lui, écoute, le message est pour toi, dis ça à quelqu'un à côté de vous. Et Jésus amène ça à l'individu. Et il dit à chaque personne qui est ici, qui combat même pour essayer d'écouter, parce qu'il y a des choses de cette terre, des choses du matériel et des choses qui vous inquiètent, qui sont autour de vous, qui vous tiraillent de tous les côtés, Jésus déclare la vie d'un homme, la somme d'un homme, l'existence d'un homme que ne consiste pas en ses biens. Même s'il est en abondance, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le Seigneur Jésus fait un contraste ici. Il dit, fais attention, tu as été créé pour plus que te lever et boulot, dodo, ramasser, manger, évacuer et recommencer. Tu as été créé pour plus que ça et j'ai une richesse à te donner. J'ai une vie plus riche que ça pour toi. Et le Seigneur fait le contraste entre des gens qui passent leur vie entière à poursuivre tellement de choses qui sont en négligeant totalement leur recherche de Dieu et qui ne sont pas riches en Dieu. Et la vision de cette série de messages, c'est chaque personne ici, semaine après semaine, qui s'enrichit et qui devient riche. J'aimerais vous déclarer qu'il y a une richesse qu'aucun million ne peut acheter, la richesse d'une paix dans mon cœur, d'un sommeil paisible, de relations de paix, d'être capable de résister, non seulement résister, mais vaincre au-dessus des peurs et des angoisses. Dites à la personne près de vous, avant la fin juin, tu vas être riche. Dites ça à la personne près de vous. Riche dans la grâce, riche dans la paix et riche dans le pardon et riche dans l'enseignement de la révélation de Dieu. Alors, nous regardons ensemble à comment vaincre peur, angoisse et phobie moderne. Et la semaine dernière, nous avons vu comme première étape, il faut rechercher Dieu et répandre nos cœurs devant lui afin de recevoir sa paix. Dans les prochaines semaines, nous allons regarder ensemble, il faut reconnaître nos peurs. Comment reconnaître nos peurs et refuser de les laisser nous dominer. Et aujourd'hui et dimanche prochain, comment vaincre peur, angoisse et phobie moderne? Il faut renouveler notre révélation de qui Dieu est. Notre texte, le texte qui va apparaître à l'écran dans un instant, tiré de Luc, qu'on a lu ensemble, est un pont entre le message de la semaine dernière, cette semaine et la semaine prochaine. C'est extrêmement important que vous ayez une bonne fondation, qu'on parte tous sur le même message. Les messages vont être gratuitement sur l'Internet, vous pouvez les acheter en CD aussi, mais c'est important que tout le monde les ait. Laissez-moi simplement poser la question, combien d'entre vous n'étiez pas là la semaine passée? Si vous n'étiez pas là la semaine passée, c'est moi voir votre main. Ceux qui n'étaient pas là, regardez votre main levée, si vous n'étiez pas là. S'il y a quelqu'un qui est assis à côté de vous qui a sa main levée, regardez votre main levée une seconde, inquiétez-vous pas, je ne vous gênerai pas. S'il y a quelqu'un qui est assis à côté de vous qui a sa main levée, voulez-vous vous pencher vers lui et lui dire, c'est pas pareil quand tu n'es pas là? Voulez-vous dire ça à la personne à côté de vous? Je veux qu'on ait tous la même fondation ensemble dans ces prochaines semaines. Et ce matin, nous allons voir ensemble comment il faut, ce matin et la semaine prochaine, il faut renouveler notre révélation de qui Dieu est. Il y a une recherche qui produit une révélation et qui procure la paix. Dans l'Évangile de Luc qu'on vient de lire, il y a la diapo 14, Jésus fait un contraste entre deux poursuites de vie. Et vous, ne poursuivez pas, ne recherchez pas que le manger et le boire. Et ne vous inquiétez pas, car toutes ces choses, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu dans ce monde qui les recherchent. Il ne parle pas d'une recherche légitime parce que la même Bible enseigne qu'un homme doit pourvoir à sa famille. La même Bible enseigne qu'une femme, un homme, nos responsabilités sur cette terre de travailler honnêtement et que même Dieu désire nous bénir. Il y a 1000 versets dans la Bible qui nous rappellent que Dieu se préoccupe par nos vies tous les jours. Il veut nous bénir et nous prospérer. C'est pour ça qu'il dit dans le texte, votre Père sait, il connaît ce dont vous avez besoin. Mais il parle ici, le mot recherche, épizétéo dans le grec, il parle de qui veut dire une poursuivre inlassablement de toutes ses forces, une poursuite unique. Il fait un contraste entre ceux dont la vie entière néglige entièrement la poursuite de Dieu, la poursuite des choses spirituelles, et qui sont entièrement donnés, leur poursuite de leur vie est vers les choses matérielles, avec tout ce que et l'inquiétude et les tourments que cela va produire. Votre Père sait de ce que vous avez besoin, mais vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu, car là où sera votre trésor, là où va être ta poursuite, là où va être ton cœur, là où va être ta passion, là où va être ta recherche, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cardia. Cardia dans le grec qui veut dire battement de cœur, cardiaque, battement de cœur. Le Seigneur Jésus enseigne ici, je le dis de cette façon, c'est la priorité de notre recherche qui va déterminer notre paix et notre repos. Le Seigneur Jésus dit, même si tu viens à l'Église à chaque semaine et tu as accepté le Seigneur dans ton cœur puis que tu viens à l'Église et tu as appris certains versets, si la majorité et la totalité de ta vie est néglige la poursuite de Dieu au profit d'une poursuite de tout le reste et que tu as seulement une pensée et que parfois dans cette mentalité-là, Dieu devient presque ton serviteur. Tu es seulement avec Dieu parce que tu penses que peut-être il va t'aider dans tes poursuites. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu devient un outil, devient ton serviteur pour t'aider à accomplir ce que toi tu veux. Il fait un portrait ici entre, il dit, les choses de cette terre, les choses matérielles, les choses humaines sont normales, elles sont bien, puis tout un enseignement. J'ai annoncé dans toute ma parole comment je sais ce que vous avez besoin, puis je vais pourvoir pour vous. Mais la poursuite de votre vie, Il y a un repos qui vient ou à chaque enfant de Dieu lorsqu'il intègre dans sa vie une poursuite de qui lui est, de ce qui le Seigneur est. Si le Seigneur lui nous enseigne le pourquoi de l'importance de cette recherche, de cette poursuite, on a vu la semaine dernière que l'apôtre Paul, lui, nous explique comment rechercher, comment poursuivre Dieu. C'est important. Ce matin, je vais aller un petit peu plus extraordinairement pratique avec vous. L'apôtre Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Philippiens 4, versets 6, 7, puis jusqu'à la fin du chapitre. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. » Voulez-vous dire à voix haute « en toute chose ». « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul dit « il y a une profondeur, il y a la normalité de la vie chrétienne. » Et la promesse de Dieu est vraie pour ceux qui comprennent ce à quoi Dieu appelle chaque chrétien. Et la normalité de la vie chrétienne est la normalité de la prière qui produit la paix. Et les prières qui vont recevoir la paix ne sont pas les prières superficielles, les prières de surface, les prières, vous savez, c'est bien de prier pour notre nourriture, c'est bien de dire « Seigneur, bénis ces aliments, etc. etc. » Et souvent, ces choses-là, on les fait nous-mêmes, puis même on les communique à nos enfants. J'entendais, de plusieurs années, elle était jeune, j'entendais ma fille, puis elle priait, puis elle disait « Seigneur, bénis ces aliments, sanctifie-les pour nos corps. » Je n'avais jamais entendu ça quelque part. J'ai dit « C'est quoi? » J'avais demandé « C'est quoi ça, bel-là, sanctifie-les pour nos corps? » Ben là, je veux manger, là, on va manger, là, bon. Et tout ça est bien. Prier pour la nourriture, prier pour ci, prier pour ça, avant, coucher, prier le soir, etc. Prier, prier dans l'auto, prier. Mais il y a énormément de chrétiens qui ont limité leur vie à des prières de superficialité dans juste certains domaines de leur vie, pas en toute chose, et qui n'ont pas compris ce que la prière. Et c'est pour ça qu'il y a, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Comment ça se fait que les promesses de Dieu nous promettent la paix? » Et je vais même dire ceci. Toute l'équipe pastorale, tous les soins pastoraux, il y a toute une démarche de thérapie qu'on va faire avec vous, qu'on peut faire avec vous et qu'on doit faire avec vous, qui va vous aider, certains d'entre vous. C'est absolument utile, mais ça ne peut pas remplacer un chrétien qui apprend comment prier Dieu pour avoir la paix. Et chaque counseling de thérapie pour vaincre dépression et le reste doit inclure d'enseigner chaque enfant de Dieu comment prier. Et l'apôtre Paul nous donne un modèle de prière qui est extraordinaire. Il dit « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Et lorsqu'il dit « Faites connaître vos besoins », ce n'est pas « Partage ton information avec Dieu ». Ce n'est pas « Informe Dieu de ce qui ne marche pas ». Et que Dieu prend des notes. Bon, parfait, envoie-moi ta liste d'épicerie. Et, je viens d'être informé. Tu lui as fait connaître. Le mot grec, norizo, au ginosko, veut faire connaître, avait deux significations. La plus profonde présentation d'une situation ou la plus profonde communication entre deux personnes. Faire connaître, c'était premièrement un terme qu'on utilisait dans les salles de cours où tu avais eu quelqu'un qui était venu conter une histoire et puis il y avait eu un jugement qui avait été rendu. Mais après ça, c'est comme si on allait en Cour suprême. Là, il y avait un dossier au complet. C'est comme si le juge disait « Racontez-moi tout ce qui s'est passé. Faites-moi connaître. » Et l'autre expression pour faire connaître, c'était littéralement l'expression utilisée dans le langage de tous les jours pour décrire une relation d'intimité entre un homme et une femme. Quand vous lisez entre un mari et son épouse, quand vous lisez dans les Écritures et Abraham connut sa femme Sarah, c'est une dimension d'intimité. C'est littéralement Dieu, l'apôtre Paul, qui dit « Il y a une prière qui procure la paix ». C'est une prière où tu viens devant Dieu et tu viens devant lui en toute chose. Et au-delà de simplement lui nommer les affaires que tu voudrais qu'il fasse, tu lui fais connaître. Tu entres en communion avec lui et tu déverses ton cœur devant lui. Tu le pries en lui faisant connaître avec prière, avec supplication, et tu vas en toute chose. Ce n'est pas seulement « Seigneur, aide-moi dans cette situation. » Je lui fais connaître mes doutes. Je lui fais connaître mes douleurs. Je lui fais connaître mes peurs. Je lui fais connaître mes déceptions. Je lui fais connaître mes questionnements. Je lui fais connaître mes inquiétudes. Je viens devant lui et c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est un apprentissage parce que c'est extrêmement difficile pour plusieurs d'entre vous. Et dans un monde moderne où tout est rapide et où toutes les relations sont superficielles, je parle aux hommes pendant quelques instants. La majorité des hommes qui sont ici, la majorité d'entre nous, les hommes, on peut être amis pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec un gars et tu as de la misère à te parler des vraies affaires. C'est mon meilleur ami, c'est mon chum, mais on ne parle pas des affaires de cœur. Souvent, nous, les pasteurs, on sait que si tu veux savoir ce qui se passe vraiment, parle à sa femme. Est-ce que vous me suivez? Elle va te le dire. Lui, il a de la misère même à se parler. Et c'est donc, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui sont ici dans ce lieu qui n'ont pas de vie de prière ou s'ils ont une vie de prière, c'est une vie où tu parles à Dieu d'une certaine façon. Et c'est un apprentissage qui est contraire à notre chair.
mais qui a une richesse. Et l'apôtre Paul dit, à moins que tu n'apprennes et que tu ne découvres cette richesse, tu peux passer une vie chrétienne entière de superficie, une de superficialité, où tu ne goûtes jamais à la vraie paix de Dieu. La vraie consolation, la vraie paix. Et c'est littéralement, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, je n'avais jamais prié de ma vie, j'ai commencé à marcher, que ce soit dans une église, que ce soit dans mon appart ou n'importe où, et à marcher, c'est ce que je fais encore des années plus tard, à marcher et à parler à Dieu. Et à dire à Dieu ce que même tu as peine à dire à qui que ce soit d'autre. À déverser en toute chose ton cœur devant Dieu. L'apôtre Paul dit, voici ce que des millions de chrétiens à travers l'histoire vont découvrir. C'est que si tu viens et que tu fais connaître à Dieu, suivez bien les étapes, avec des prières, avec supplication, DIO, qui parle d'autorité, de lier, de délier, qui parle de « Seigneur, je te présente ça, je te présente la situation, je te demande d'agir, je te demande d'intervenir, j'entre en communion avec toi, avec supplication, mais aussi avec action de grâce. » À tous les jours, lorsque tu as déversé ton cœur devant Dieu, après ça, tu t'arrêtes, puis tu dis « Je commence à te remercier, Seigneur. Je veux te dire merci pour ce que ça fait. Merci parce que tu vas agir. » L'apôtre Paul dit « Si tu fais ça à chaque jour et tu le fais avec persévérance, tu vas vivre et tu vas connaître ce que des millions ont connu à travers l'histoire, la paix de Dieu. » Qui dépasse toute intelligence, raisonnement dans le grec, qui dépasse tout ce qui te faisait peur auparavant, va venir calmer ton cœur, garder ton cœur et te remplir d'une paix. Et le Dieu de paix va marcher avec toi au nom de Jésus. Quelqu'un devrait dire amen. Et l'apôtre Paul ne fait pas seulement dire, voici ce qui peut arriver, voici ce que cette recherche va produire, la paix qu'elle va produire. Il nous montre tout de suite les choses concrètes qui vont arriver à un chrétien si tu apprends. À chaque jour, à une chrétienne, à un homme, à une femme. L'apôtre Paul, et c'est la fin de mon message. Lorsque tu arrives, vous lirez la fin de Corinthiens à partir du verset 10. Après avoir dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu en toutes choses, avec prière, supplication, action de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera. Une garnison va être autour de ton cœur. Tu vas être protégé, tu vas être en sécurité, gardera ton cœur en Jésus-Christ. Et le Dieu de paix sera avec vous. L'apôtre Paul dit, regardez bien ce qui va être à vous. Regardez bien ce qui va vous appartenir. Regardez bien la réalité de ce que tu n'avais pas avant, que tu peux avoir maintenant si tu apprends cette recherche de Dieu, quel que soit ton âge. Le Dieu de paix sera avec vous pour vous remplir de sa joie. Le verset 10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Tu vas entrer dans une dimension dans ta vie chrétienne différente, où ta joie n'est pas simplement l'expression de ce que ça va bien ou mal dans ta vie, et où il y a une joie qui est surnaturelle, qui est transcendante des expériences que tu vis. Tu as une joie lorsque les choses vont bien. Tu as une joie lorsque tu as un bonheur. Tu as une joie lorsque tu as une bonne nouvelle. Mais tu as une joie qui est supérieure à celle-là. Il y a une joie qui n'est pas conditionnelle aux circonstances. Elle vient littéralement alors que tu es branché sur le Dieu de paix qui te donne une joie en sa présence. La joie va être avec toi. Et le Dieu de paix va être là pour te remplir d'une joie que tu n'auras pas autrement. Pour vous donner une satisfaction nouvelle. Dans le verset 11, j'ai appris à être satisfait dans l'état où je me trouve. Ça, c'est extrêmement important. Parce que sans cette communion avec Dieu, il y a une tentation et un mensonge d'insatisfaction qui détruit les milliers de chrétiens. Les milliers de chrétiens qui n'ont pas de relation avec Dieu et qui sont dans un état de restlessness, un état d'insatisfaction perpétuelle. C'est toujours quelque chose qui est une insatisfaction qui est là. L'apôtre Paul dit parce que je vais à sa présence et je vais faire connaître mes besoins, mes prières, supplications, actions de grâce. Il y a une divine satisfaction qui vient en moi, qui n'est pas conditionnelle à ce que j'ai tout ce que je crois que je devrais avoir. Sans cette relation, sans cette communion, cette recherche, la tentation d'insatisfaction fait que toutes sortes de gens sont malheureux, sont inquiets, sont toujours insatisfaits, ne prennent pas joie dans ce qu'ils ont. Toute leur vie ne bénéficie pas, ne sont pas heureux avec ce qu'ils ont parce qu'ils ont toujours une insatisfaction sur ce qu'ils n'ont pas. C'est ce qui fait que des gens qui est une église, qui est une famille, qui est un couple, qui est un mariage, je suis insatisfait. Le Seigneur dit, j'ai un appel pour vous, un appel à venir en ma présence. Et dans cet endroit-là, l'apôtre Paul dit, ma satisfaction, ma joie, ma recherche n'était pas dans des fruits passagers, mais ma vie, ma recherche, c'est les fruits de Dieu, les fruits éternels. J'ai appris à être satisfait, à être heureux, à être en paix dans cette communion avec Dieu, dans l'état où je suis. Le Dieu de paix va être avec vous pour renouveler votre passion pour les bonnes choses. Ce que le verset 17-18, ce que je recherche, ce n'est pas le don matériel momentané. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant qui est agréable à Dieu. Suivez-moi bien. Sans cette communion avec Dieu, cette recherche de Dieu, où tu lui fais connaître, où tu entres en relation avec lui, où tu déverses ton cœur puis où il te remplit de sa paix, le tourment qui habite l'âme de plusieurs chrétiens, c'est qu'une tentation et une autre arrive. Et sans cet esprit de Dieu qui te ramène à ton focus sur les choses éternelles, une chose mène à une autre. Une bonne chose, un homme d'affaires qui réussit bien, sa carrière ou autre chose peut devenir complètement, tout son focus peut partir, en vient à négliger, nous comme pasteur, on le veut arriver à des milliers. Négliger les choses de Dieu, négliger tout, et en venir à ne plus être capable de voir quel est le vrai fruit éternel. Il peut passer sa vie à une recherche où il perd les vraies choses. Récemment, j'ai eu cette conversation très touchante à quelqu'un que vous ne pouvez pas savoir c'est qui, mais qui était un chrétien, qui a connu le Seigneur, qui avait vraiment une touche de Dieu, et qui était consumé avec une ambition de réussite, et c'est un gars de grand talent, de grande capacité. Et il m'a écrit, puis par la suite, on s'est parlé récemment, parce que dans les derniers 10 ans, 10 à 15 ans, cette poursuite de ses ambitions de réussite séculière à laquelle il a réussi complètement, qu'il a acquise, à cette poursuite-là, il a tout négligé, tout laissé pour y arriver. Une chose a amené à une autre, et finalement, quitter sa famille, quitter son couple, quitter ses enfants, quitter les choses de Dieu, quitter la maison de Dieu, et tout le... Et il m'a écrit récemment pour me dire que récemment, il a vécu un moment où est-ce qu'au niveau de sa carrière, il a vécu l'apothéose. Un moment où il a reçu un prix, qui est le prix par-dessus tous les prix, et si vous, avec un trophée qui venait avec, puis était devant des milliers de ses confrères qui venaient de différents endroits, et qui l'applaudissaient, il y avait un standing ovation, puis il a reçu, là, si vous pouvez imaginer, il a reçu la médaille d'or par-dessus platine, par-dessus gold, or, platiné, est-ce que vous me suivez? Il avait reçu le plus haut niveau du plus haut niveau, et puis il dit, c'est comme si j'avais dans mes mains ce que j'ai poursuivi depuis 15 ans, puis même plus que j'aurais jamais pensé que je serais capable d'atteindre ça. Et au-delà de... du moment, il dit, j'ai vécu ce moment hallucinant que je l'avais dans mes mains, et puis tout est, et finalement, je passais avec mon trophée, puis j'étais derrière les rideaux, puis en train de donner à quelqu'un d'autre, puis j'étais là, tenant dans mes mains ce que j'avais poursuivi depuis 15 ans, puis il dit, il y a eu un sanglot, comme un épée, qui a percé le cœur. Il dit, j'étais là, puis je me retenais, parce qu'il y avait du monde autour, et j'ai commencé, je me tenais dans mes, puis je me disais, j'ai cherché ça toute ma vie, puis c'est tellement vide. Puis il dit, Claude, j'aurais changé ça, là, je l'aurais changé juste pour être assis avec ma femme puis mes enfants dans la maison, comme j'étais. Je leur ai échangé juste pour être à l'église, puis je me suis dit, comment j'ai fait pour être rendu là? L'apôtre Paul dit, il y a une communion avec Dieu, où à chaque jour, tu viens lui faire connaître ce qui se passe à l'intérieur. Tes tentations, tes aspirations, tu viens tout lui donner. Il te donne une paix et il te garde avec un focus. Oui, je vais pouvoir à ma famille. Et oui, je vais réussir. Et oui, Dieu veut que tu te développes et que tu t'épanouisses dans ton travail et que tu réussisses ta carrière. Et il veut te faire prospérer et t'utiliser. Mais il n'y a jamais cet extrême où tu négliges tout le reste. Il y a aussi toujours cette poursuite du fruit éternel. Je vais être un homme de Dieu, une femme de Dieu, puis je ne perdrai pas ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que vous pouvez dire amen ce matin? On parle de Dieu de paix qui sera avec vous. Alors que les musiciens s'approchent, le Dieu de paix va te remplir de joie, te donner une satisfaction nouvelle, renouveler votre passion pour les bonnes choses, toujours dans Éphésiens 4. Dernièrement, il va faire grandir votre foi, quelles que soient les circonstances propices à la peur et aux angoisses qui vous entourent. D'une cellule de prison où tout pouvait le terroriser, l'apôtre Paul a écrit, « Mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, au siècle des siècles jusqu'au mois de mai 2009, et toute l'Église dira. » L'apôtre Paul dit, si tu vas à cette communion avec Dieu à chaque jour, puis tu le recherches, puis tu fais connaître ton besoin devant lui, tu entres profondément avec lui, la paix de Dieu va non seulement te garder, puis c'est inexplicable, mais c'est surnaturel. La situation peut être la même en ce moment, mais il y a quelque chose qui va t'arriver à toi. L'apôtre Paul, de sa prison, commence à dire aux Philippiens, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. » Est-ce que vous comprenez que ce verset-là qu'on entend souvent, « Notre Dieu pourvoira à tous nos besoins », ce n'était pas le verset d'un gars qui était assis à Cancun, sur le bord de la piscine, avec une pignée au Canada, puis son chapeau de paille, puis qui disait, « Hey, notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. » Non, c'était un homme qui était dans le fond de sa cellule en prison, mais qui avait reçu de Dieu une capacité, même dans ses moments de peur, une telle paix, qui commençait à annoncer aux autres, « Dieu va pourvoir, Dieu va s'en sortir, Dieu va aider, Dieu va être bon pour toi, Dieu va... » Et il dit même, « Et ça va être glorieux. » Il va pourvoir avec gloire. Il disait, et même, j'ai vu, lorsque les Philippiens ont reçu la lettre, ils ont dû frémir. Ils disent, Cet homme-là qui aurait toutes les raisons d'avoir peur avait en Dieu une communion où il l'encourageait. Et dans les temps dans lesquels nous vivons, je vous dis ceci avec franchise et transparence. Après 25 ans de ministère et des milliers de sermons prêchés, je ne suis même pas capable d'encourager ma propre famille à moins que l'Esprit de Dieu vienne me rendre capable de me donner sa joie, sa paix et de dire « Hey, il a été fidèle hier, il va l'être encore aujourd'hui. » Et ça va être glorieux. Comment Dieu va nous en sortir? Je vais vous dire « Amen ». Terminer avec ceci. J'étais à Calgary en fin de semaine, vendredi, samedi. Je suis allé faire prêcher pour une conférence. Ça s'appelle Cross the Street. Et c'est une conférence qui est à travers le Canada. Il y a 3 ans, pour la première fois, j'ai été invité à aller prêcher cette conférence qui réunit des pasteurs et des leaders évangéliques à travers tout le Canada. Il y avait les 10 provinces qui étaient représentées. Et la première fois, j'ai été invité à Mississauga, après ça à Winnipeg, et cette année, c'était à Calgary, et l'an prochain, pendant 4 ans consécutifs, j'étais invité pour prêcher cette conférence. Ça va être à Ottawa la prochaine. Et c'est un moment qui était une bénédiction extraordinaire et un privilège, parce que tous les chrétiens, il y avait 30 dénominations qui étaient représentées. Et c'est principalement des chrétiens qui ne sont pas de souche pentecôtisante, qui ne sont pas des chrétiens évangéliques, qui ne sont pas de souche pentecôtisante. Et la première année, c'était drôle parce que lorsqu'ils m'avaient invité, ils m'ont dit à peu près 10 fois lorsqu'ils m'ont présenté, c'est la première fois qu'on a un prédicateur pentecôtisant, nouvelle vie. Vous savez, lorsque quelqu'un te présente, puis pendant qu'il te présente, tu sens que peut-être il est en train un petit peu de s'excuser au cas que ça aille mal. Est-ce que vous me suivez? Il est en train de dire... C'est pas moi qui l'ai invité, là, puis bon. Et ça a dû être correct parce qu'ils m'ont invité année après année pour 4 ans consécutifs. Et c'est vraiment tellement beau d'être avec ses frères, ses ministères de partout à travers le Canada. Et j'étais à Calgary en fin de semaine en train de faire le ministère là-bas, puis j'ai vécu un témoignage à la fin de la session. Il y a un couple qui est venu me voir de l'Armée du Salut qui font des œuvres humanitaires magnifiques. Et en anglais, on dit « they made my day ». J'espère que c'est une bénédiction pour les centaines qui étaient là. Ces conférences-là m'ont permis d'être face à face avec plus de 1500 pasteurs et leaders à travers le Canada. Mais eux, si j'étais allé juste pour entendre le témoignage, ils m'ont vivifié par le témoignage qu'ils m'ont raconté. Puis ils m'ont rappelé, puis je me souvenais d'eux. Ils m'ont rappelé que la première année où j'ai donné la conférence, je pense en 2006, c'était à Mississauga. Et c'est une conférence avec tous ces évangéliques qui sont là. Et on a eu un temps magnifique, mais c'était par leur expérience. Il y a toutes sortes de choses... de louanges, d'adoration, de prières, des dons spirituels à laquelle ils ne sont fait pas partie nécessairement de leur expérience et tout ça. Et moi, je suis arrivé là-bas, puis je respecte bien tout ce qui prend place là-bas, puis je suis là pour les servir. Mais dans la présentation et la prédication que j'avais faite vers la fin, dans la prière tôt le matin, Dieu m'a vraiment donné une parole. Dieu m'a donné un message et ça a commencé à brûler en moi, puis j'avais à cœur ces mots, je crois que c'est une parole de connaissance, j'avais à cœur ces mots que il y a quelqu'un qui serait là, qui avait sa lettre de démission dans les mains, puis qui était pour démissionner tellement qu'ils étaient inquiets, puis ils étaient torturés par l'inquiétude. Alors, j'ai commencé vers la fin à dire, il y a quelqu'un qui est ici, et j'ai commencé à qu'il y a une lettre de démission dans les mains, puis j'ai pris le verset, j'avais le verset à cœur qui dit, le Seigneur dit, il ne jettera pas le roseau qui est cassé, et il n'éteindra pas la flamme qui brûle encore. Puis j'ai commencé à partager là-dessus, même si c'était hors de mes notes, hors de mon PowerPoint, dans les dernières 10 minutes, et c'était tellement beau, tellement émouvant, parce qu'eux ne sont pas du tout habitués à ce genre de prédication-là. Et j'ai dit, vous savez, il y a quelqu'un qui est ici ce matin, et vous vivez ça, et voici ce qui se passe, et vous avez un appel, vous avez un cœur pour Dieu, puis un désir pour Dieu, mais l'inquiétude est en train de vous détruire, et vous avez une lettre de démission, vous l'avez amenée avec vous, et alors que j'ai dit ça, eux se sont levés à leur place. Ils ont dit, oui, c'est nous autres. It's us. Ils étaient tellement pas habitués. Ils ont dit, tout le monde vous parlait. Ils disaient, ça se peut pas, comment ça se fait qu'ici? Fait qu'ils se sont levés, ils ont dit, sir, it's us, c'est nous. Et tout le monde m'a regardé, qu'est-ce que tu vas faire là? Alors, j'ai dit, bon, Dieu a un message pour vous. Donnez-moi quelques instants, puis dans quelques minutes, on va prier ensemble. Et j'ai fait un appel, puis des centaines se sont avancées, puis j'ai prié avec des gens. Puis après ça, ils m'ont dit, c'est la première fois en 20 ans qu'il y avait un appel comme ça qui était fait. Mais j'ai fait un appel, et j'ai commencé à prier avec eux. Et lorsque je me suis approché d'eux, eux autres, ils étaient bouleversés. Ils ont dit, comment ça que vous savez? La lettre de démission, puis etc. Puis ils ont commencé à m'expliquer la terreur de leur cœur. Et moi, quand j'ai prié avec eux, je leur ai dit, ce que j'ai vu, c'est que vous avez une angoisse, vous avez une peur, vous avez une inquiétude qui est en train de vous ronger. Et moi, j'utilisais, je ne savais pas comment Dieu orchestrait les affaires. 10 fois dans les 2 minutes qu'on priait ensemble, je leur disais, je priais avec eux, puis je leur disais, ce que j'ai vu en prière, c'est qu'il y avait quelqu'un qui serait ici, and hope is gone. L'espoir est parti. L'espoir est parti, puis ça vous ronge le cœur, vous êtes inquiétés. Puis quand j'ai dit ça, la madame était, c'était comme ça. Hope is gone. Vous êtes inquiète, vous êtes tellement angoissée, vous êtes en train de vouloir tout lâcher. J'ai dit, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui vous arrive? commençait à pleurer et à nous dire, notre fille, depuis 6 mois, is a runaway. Notre fille est partie en fugue depuis 6 mois. On ne sait pas si elle est morte ou si elle est vivante. Elle est à quelque part dans le Canada. Et ma femme est en train de sombrer dans la dépression. Parce que comment est-ce qu'on peut faire le ministère sans savoir même où est-ce que notre fille peut être? Il était tellement découragé, tellement inquiet, tellement... Puis il me dit, vous savez, ça ne se peut pas, pasteur, que tu utilises ces mots-là, parce que le nom de notre fille, c'est Hope. Fait que là, vous dites devant tout le monde, il y a quelqu'un avec une lettre de démission, puis là, tu dis, Hope is gone, à cause que l'espoir n'est plus là. Puis... Fait que là, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, on va prier ensemble. Puis il était tellement beau, il était tellement sincère. J'ai dit, vous savez, moi, ce que je vous dis, c'est que je crois que vous devriez déchirer la lettre de démission. Dieu a un plan pour votre vie. Il dit, OK, t'as une minute. Et où ça va aller? Tiens, prends-la, déchire-la, va déchire-la. J'ai dit, vous voulez-vous qu'on la déchire ensemble? On va la déchirer. Déchire ensemble, puis on a pris un moment. Puis on a fait ce que l'apôtre Paul dit. Faites connaître vos besoins à Dieu. C'est pas juste, hey, Seigneur, juste te dire, là, ma fille, hey, c'était pas ça, là. C'était des gens qui criaient au Seigneur, qui disaient, « Seigneur, voici ce qui se passe, puis où qu'elle soit. » Et avec supplication, déio qui veut dire, avec autorité, on a commencé à prier, « Seigneur, où qu'elle soit, à travers le Canada, toi, tu sais où aller. Toi, tu es capable d'intervenir. Toi, tu vas aller la chercher. Ramène-la et, Seigneur, fais quelque chose dans le cœur de mon frère et ma sœur. Permets-leur d'avoir une paix qui dépasse toutes les circonstances et de continuer à te servir, mon Dieu. » Et la paix de Dieu, j'ai reçu des emails au fil des semaines et des mois qui s'accrochaient au Seigneur et continuaient à servir Dieu. Et là, ils étaient là, le visage. Ils étaient là en fin de semaine. 3 ans plus tard, à la fin, ils viennent me voir les deux, le visage brillant. Et là, il y en a d'entre vous, c'est quand même un bout de temps, vous venez à Nouvelle Vie, vous me voyez venir gros comme un camion en ce moment. Dites à la personne près de vous, il ne compterait pas si ça finissait mal. Dites ça à la personne à côté de vous. On va dire, en tout cas, on est tellement bénis, on est resté dans l'œuvre de Dieu et notre fille est revenue à la maison. Hope is back. Puis il me dit, écoutez, il y avait une belle grande fille à côté. Regardez, ça, c'est notre fille. Puis elle sert le Seigneur maintenant avec nous dans l'église et dans la banque alimentaire. Je vous parle de la paix de Dieu qui dépasse toutes circonstances. Il y a une œuvre du Saint-Esprit qui est surnaturel pour vous permettre de vaincre les peurs, les angoisses. Et c'est le message de dimanche prochain. Je vous demande vraiment d'y être et d'inviter quelqu'un parce que cette capacité d'aller chercher la révélation de Dieu est en communion avec Dieu, de déverser nos cœurs et parfois même d'aller en communion avec lui, puis de pas le temps de prêcher le dimanche prochain, mais lorsque nous ne savons même pas comment prier, je ne sais même pas quoi dire, l'Esprit intercède avec des soupirs et des exprimants. Dimanche prochain, nous allons voir ensemble comment le Saint-Esprit peut raviver, peut parler, peut libérer, peut révéler et te donner une révélation de Dieu qui devient plus forte, plus grande, plus vraie. Tu sais dans ton cœur et qui te permet d'être libéré des inquiétudes et des angoisses. C'est dans les instants de cette matinée, je vais vous inviter à pencher la tête un instant. Je ne veux pas faire d'appel ici, à l'avant. Et je crois que nous avons tous besoin de vivre et d'entrer dans ce message. Mais ce matin, j'ai un appel particulier. Je ne vous appellerai pas à vous avancer ici, à l'avant, mais des gens qui sont ici, pour vous, c'est plus que juste. On a tous besoin de rechercher Dieu, d'aller chercher la paix. On a tous des zones d'inquiétude. Des parents pour leurs enfants ou pour leurs parents. Des hommes et des femmes pour leur travail et le futur. Des hommes d'affaires qui voient leur fonds de pension, qui voient leur fonds d'investissement et leur placement fondre. Des hommes qui ne savent pas quel lundi ils vont entrer au travail et le bureau, le concessionnaire, le boulot va être fini, va être terminé. Va être fermé. La mise à pied va prendre place. Les gens qui sont ici, qui ont une inquiétude, une angoisse. On a tous des choses avec lesquelles nous avons besoin de prendre cette décision de dire, Seigneur, en 2009, à chaque jour, je vais aller devant toi. Je vais te faire connaître. Puis je vais apprendre, dimanche prochain, je vais venir, puis je vais apprendre comment le Saint-Esprit, là-dedans, vient me soutenir, vient m'aider pour me donner cette révélation. Mais au-delà de ça, il y a, c'est si personnel et si précieux, il n'y a pas de foule, il y a seulement des individus devant Dieu, des brebis, des hommes et des femmes, des enfants de Dieu, précieuses devant lui. Mais il y a des personnes que c'est une question de vie ou de mort pour vous. Vous êtes ici et vous dites, moi, je suis aux prises avec l'angoisse. Je suis aux prises avec des peurs. J'ai besoin d'une touche miraculeuse de Dieu.
J'ai besoin que l'Esprit de Dieu me touche. J'ai besoin d'une fraîche révélation. J'ai besoin d'une intervention de Dieu dans ma vie. J'aimerais vous inviter là où vous êtes parce que la puissance et l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu est ici pour faire cette œuvre. Mais si vous êtes ici ce matin, vous dites, j'ai besoin de ce message. J'ai besoin de cette révélation. J'ai besoin de cette libération de l'angoisse ou de la peur dans un domaine de ma vie, pour une chose dans ma vie. J'aimerais vous inviter à vous lever là où vous êtes à votre place et nous allons prier pour vous ce matin. Juste vous lever là où vous êtes, partout à travers celui des hommes et des femmes qui disent, c'est moi ça. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'une touche de Dieu. J'ai besoin de l'onction de Dieu. J'aimerais demander à tous les chrétiens d'ouvrir vos yeux pendant un instant et de regarder autour de vous. Ça va prendre quelques instants. Ce n'est pas du désordre, c'est l'ordre de Dieu. J'aimerais vous demander, regardez bien autour les gens qui sont debout. Et j'aimerais que les chrétiens de cette église, les chrétiens de l'église, homme avec homme et femme avec femme, vous puissiez vous lever, puis déplacez-vous et allez vous placer à côté des personnes qui sont là. Mettez une main sur leur épaule. Et vous qui êtes debout, homme, avec femme, placez votre main sur l'épaule de la personne à côté de vous. Nous allons prier avec vous. Levons-nous tout le monde ensemble. Toute l'église se lève ensemble. Et nous allons prier avec ces gens. Mais vous allez aussi, tous les chrétiens qui sont ici, même si vous n'êtes pas en ce moment debout à côté de quelqu'un, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Pensez pas tout de suite à « OK, dans 10 minutes, on s'en va dîner à tel endroit », que vous puissiez entrer avec nous dans ce moment de prière et dire « Seigneur, nous allons prier pour une intervention du Saint-Esprit, pour une intervention de puissance, pour une intervention d'onction, comme ce couple à Mississauga qui a reçu une onction de Dieu, de libération, de révélation qui leur a permis non seulement de tenir, mais de vaincre leur angoisse et de reprendre le combat et d'aller chercher la victoire pour leur fille « Hope ». D'aller chercher l'espoir et ramener l'espoir dans leur maison. Que ça va être pour toi ce matin. Nous allons prier les uns pour les autres. Levez-vous et commencez à prier maintenant les uns pour les autres. Levez vos voix et commencez à prier les uns pour prier pour les personnes. Placez votre main sur leur épaule et commencez à prier pour lui et pour elle. Alors que nous allons aller dans l'adoration ensemble, alors que nous allons aller ensemble et déclarer notre foi en Dieu. Je louerai ton saint nom. Seigneur Jésus, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Oh, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.